Alors, vous avez peut-être entendu parler d'un professeur américain qui s'appelle Edward Tufte, qui a écrit que PowerPoint déforme la façon de raisonner. Donc, je vais faire une PowerPoint. J'ai aimé le titre de cette conférence qui était « Des ressorts pour une renaissance industrielle ». Donc, il faut qu'on réinvente notre industrie. Et je vais vous proposer un ressort et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc je vais commencer, c'est le même ressort mais décliné sous trois chapitres, le Fab Lab, le Fab Ad et une proposition d'initiative nationale. Les Fab Labs avaient été démarrés par le MIT en 90. L'idée c'est de faire des petites usines pour étudiants. L'imprimante 3D n'est arrivée que très tard puisqu'au fond, au début, ils utilisaient tout un tas d'autres équipements. Il faut 5 000 € pour en créer un, 10 000 si on le sophistique, 20 000 s'il est super équipé. On peut y mettre de l'électronique, un automate coûte 15 €, et vous avez un bouquin, l'Arduino pour les nuls. À Montmirail, j'ai démarré un petit Fab Lab Café, où on ne sert que du café, où les élèves du collège viennent, vont venir, c'est en train de se faire, club informatique, les artisans, les particuliers. Le 12 avril, l'éducation nationale qui organise tous les ans les Olympiades des sciences de l'ingénieur, les équipes champardonnaises se sont réunies et il y avait 20 équipes en concurrence. Et j'étais surpris de voir que sur les 20 équipes, qui étaient à chaque fois 4 ou 5 élèves d'école de première ou de terminale, pas plus haut, on a des lycéens, 15 sur 20 avaient utilisé des technologies de fabrication additive, la plupart du temps sans l'aide de leurs professeurs, ce qui me fait dire que nos lycéens sont en avance sur les entreprises, mais aussi sur une bonne partie de leurs professeurs. Deuxième ressort, la version industrielle du Fab Lab. En fait, la fabrication additive modifie en profondeur n'importe quel service de l'entreprise. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, parce que les divers journaux parlent de l'imprimante 3D, mais je voudrais vous montrer les conséquences en entreprise, dont dans la mienne. D'abord, il ne faut plus faire de plans en 2 dimensions, il faut faire les plans en 3 dimensions. Et comme on peut faire des pièces complexes d'un seul coup en fabrication additive, c'est une autre façon de concevoir son travail d'ingénieur bureau d'études. Les CAO 3D ne sont plus qu'à 5 000 €, c'est à la portée de n'importe quelle entreprise. Et il y a un fabricant qui s'appelle SolidWorks qui, lui, a trouvé une astuce, il le donne quasiment gratuitement aux écoles. Il s'avère que la CAO 3D est beaucoup plus facile à apprendre que la CAO 2D. En Champagne-Ardenne, bon, on peut dire l'école des arts et métiers, les lycées, l'école d'art plastique font ces choses-là. Deuxième partie, simulation numérique. Une fois que vous avez fait le plan en 3D, vous pouvez appliquer dessus des simulateurs numériques. Et tous les fabricants de CAO 3D ont sorti de la simulation intégrée, donc notamment SolidWorks, mais Katia et tous les autres. Donc si on achète des simulateurs, on est simplement au même niveau que les concurrents. Donc ce qu'il faut faire, si on veut se distinguer, première montée en gamme par rapport à la compétition internationale, il faut faire des simulateurs métiers, c'est-à-dire spécifiques à l'entreprise elle-même. Et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, je vais continuer un peu le généraux. Donc il existe des simulateurs généraux, comme ceux de SolidWorks, mais par exemple à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, ils ont un labo spécial qui peut faire de la simulation. Et les chercheurs français sont vraiment très bon marché, donc on a intérêt à les utiliser en tant que chef d'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un prototype conceptuel, pas fonctionnel, conceptuel, pour expliquer le principe. Et quand vous arrivez en clientèle, en montrant un prototype à l'acheteur, même si c'est un acheteur automobile, vous arrivez à l'intéresser à la technique et plus seulement au prix. Donc je dois en avoir un qui traîne. Voilà, vous n'arrivez pas à le voir, c'est un décapsuleur de 2 grammes en titane, fait en fabrication additive, impossible à faire en fabrication soustractive. Le décapsuleur le plus léger du marché, il coûte quelques euros en titane et il fait que quelques grammes. Donc, si vous arrivez en clientèle avec un prototype, vous avez déjà moitié convaincu le client. Le fait de pouvoir montrer des prototypes ou les faire à toute allure, notamment les prototypes conceptuels, ceux qui ne sont pas fonctionnels, est un accélérateur de vente. Le client arrive dans mon entreprise le matin, voir mes ingénieurs bureau d'études, il n'a qu'une idée vague de ce qu'il aimerait. On lui dessine, on lui fait un prototype sur l'imprimante plastique. Ah, c'est pas mal, mais il faudrait me faire ça ou je voudrais rajouter ça. Et donc, durant la journée, on lui fait 4-5 prototypes. Le soir, il quitte l'entreprise en ayant clarifié ses idées et en partant avec un prototype qu'il peut montrer à tous ses collègues. Donc, on n'est plus dans la situation où on envoie un plan en Chine pour faire un moule, pour faire, etc. Un outillage, on le sort dans la journée et on a fait 4 versions. Et on est finalement dans une situation de living lab, c'est-à-dire qu'on a à la fois les chercheurs de l'entreprise, on a l'utilisateur, le client, et éventuellement des chercheurs externes qui aident à la mise au point. Et donc ça, c'est un accélérateur d'innovation. Et en plus, ça donne une innovation qui correspond beaucoup plus au marché. Alors, parmi les imprimantes plastiques, il y en a plein en Champagne-Ardenne. Le moindre lycée en a acheté parce que ça coûte que 1 000 euros. Reims Management School, l'école de commerce, en a. Les UTT divers, les BTS en ont. Donc, il y en a partout. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous lancer dans un prototype fonctionnel. Si jamais vous avez besoin d'une pièce qui n'est que plastique, finalement, l'imprimante qui vous a fait le produit conceptuel, vous le faites fonctionnel. Par contre là, tant qu'on est en plastique, il y a beaucoup de solutions. Dès qu'on arrive en métal, il n'y en a plus beaucoup. On a besoin de développer des alliages sous forme de poudre métallique et des choses comme ça. Donc il y a du travail pour tous nos chercheurs pour faire du développement. Il y a les traitements de surface, il y a les traitements thermiques, il y a pas mal de choses à faire au niveau universitaire. Et surtout, on peut faire des pièces impossibles à faire en fabrication soustractive. La fabrication soustractive, vous prenez un bloc de métal et vous faites des copeaux. Donc vous ne pouvez pas faire cette forme-là en soustractif. Du moment que vous avez à toute allure un produit fonctionnel, vous pouvez immédiatement faire tous les essais de qualification dessus. Donc vous gagnez énormément de temps. Bon, alors parmi ceux qui ont des imprimantes métalliques, il y a une petite entreprise 3A à Nogent, ils sont 4 salariés. Ils se sont achetés une imprimante qui fait justement mon petit truc en titane, 500 000 euros, et ils sont en train de la rentabiliser. Et en plus, si vous n'avez pas vous acheté d'imprimante à 500 000 euros, vous lui envoyez un plan et ils impriment votre pièce pour vous. Généralement après, notamment dans l'automobile, on vous demande des premières séries. Et on vous les demande un an avant de lancer la production de masse. Ben là, les premières séries, vous les faites de la même façon. Et donc, vous êtes typiquement en lean manufacturing, c'est-à-dire production sans rien, sans stock, etc. Et vous n'avez pas besoin d'outillage. Un outillage plastique, ça coûte facilement 500 000 euros, 300 000 euros s'il y a du volume, et ainsi de suite. Les Fab Labs, c'est drôlement amusant pour des étudiants de vous prendre en photo avec votre iPhone, une photo panoramique. Ils envoient la photo sur un site internet gratuit qui renvoie un plan 3D gratuit. Vous l'envoyez sur l'imprimante étudiante à 1 000 euros et vous avez le buste de sa copine qui est sorti. Je suis un peu rapide, mais on peut faire n'importe quoi. On prend la photo de n'importe quoi et on a une impression 3D de la photo. Donc dans les Fab Labs, le lycée Bazin de Charleville, mon Fab Lab Café, il y a une sous-préfète de Château-Thierry, c'est dans l'Aisne, dans la Picardie et pas en Champagne. Elle vient à toutes mes réunions parce qu'elle s'est passionnée pour le sujet. Elle emmène les responsables de l'emploi local, le pôle emploi. Je pense qu'elle va aller plus vite que moi sur les sujets tellement elle... Quand vous êtes une PME et que vous commencez à faire de la fabrication additive, il vous faut plus de monde au bureau d'études, plus de techniciens et d'ingénieurs. Et brusquement, votre calcul de prêt de revient, quand vous facturez une pièce au client, ne se fait plus de la même façon. Parce que vous aviez que des directs. Donc en gros, c'est matière première multipliée par un coefficient 1,5. Là, vous avez des indirects et il faut que vous mettiez le prix dedans. Et donc au fond, ce n'est plus le lean manufacturing qui est important. C'est la productivité des gens de production. C'est la productivité des gens en bureau d'études qui devient important. Les Japonais ont sorti une théorie du lean engineering pour les gens de R&D, comment améliorer leur productivité, mais n'ont publié aucun bouquin. Donc, avec le pôle Materalia, dont je suis le président, on a monté des cours de lean engineering. Toutes les entreprises ont un service maintenance. Quand une pièce casse sur une machine, c'est une pièce unique, vous appelez le fournisseur qui vous dit 3 mois de délai pour la réparer. Là, vous la recollez vaguement avec n'importe quel colle, vous la photographiez, vous la scannez et vous lancez l'impression et c'est terminé. Un tout petit exemple personnel, mon gendre a acheté un taille-haie. Il s'en est pas servi, il n'a pas servi très souvent et là il a essayé de bien fermer le bouchon du réservoir d'huile. Et il l'a fait tellement fort que la tête du bouchon s'est cassée. Elle était en plastique. Donc il appelle le vendeur, magasin d'Arty, qui dit est-ce que c'est sous garantie ? Parce que si c'est sous garantie, je vous donne un taille-haie neuf. Pour un truc à 10 centimes de plastique. Elle a dit non, ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté. Ah ben trop tard, il faut que vous rachetiez un taille-haie complet. Donc sur n'importe quelle imprimante d'étudiant, maintenant on peut faire la réparation. Et du coup, n'importe quel artisan de quartier qui vous répare votre clé peut vous réparer n'importe quelle pièce plastique qui a cassé sur votre machine à café. Et puis en plus, vous pouvez faire ça pour le client dans le cas des professionnels. Vous dites, mais je vous envoie le plan, imprimez-le sur votre imprimante 3D. La façon de concevoir les machines, puisqu'on parlait de l'Allemagne, elle n'est plus la même. J'ai des équipes qui conçoivent des chaînes de production pour faire des produits pour l'automobile. Donc, il y a des endroits, un plastique un peu dur suffirait, mais un plastique un peu dur, ça veut dire un moule, égale au moins 50 000 euros. Donc, du coup, ils le font en métal soustractif, 300 euros par pièce. Depuis qu'on a quelques imprimantes plastiques, ben, finalement, on les fait en plastique, c'est 3 euros. Donc, on passe de 50 000 euros si on avait fait un moule plastique, 300 euros en faisant de la fabrication métallique soustractive, à 2 ou 3 euros. Et donc, on a plein de pièces dans nos machines, à l'heure actuelle, qui étaient métalliques jusqu'à il y a un an ou deux. Maintenant, elles deviennent plastiques. Donc, c'est une autre façon de concevoir les machines à toute allure, y compris les machines de production de masse. Alors, ceux qui m'entourent, bon, il y a des Fab Labs d'atelier. Donc, mon service maintenant, c'est en train de faire son propre Fab Lab. L'école polytechnique féminine de Troyes en a créé, l'ENSAM de Chalon, etc. Dans les joysticks des avions, le joystick sert à piloter l'avion de combat et à tirer des missiles. Donc, dans le joystick, il y a un câble qui est à peu près cette tête-là. C'est assez complexe. Combien de milliers ou de millions de flexions va résister ce câble? Donc, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, on faisait une cinquantaine de câbles de ce type-là et on les testait. Durée de vie, durée des tests, 6 à 7 mois, parce qu'il faut les tester en flexion, à haute température, à basse température, etc. Ben, avec ce petit programme informatique que nous a développé des universitaires, on sait que ce blindage-là va casser à 6000 flexions. Alors que, ah, je ne l'ai pas mis, mais l'un des autres blindages résiste à 3-4 millions de flexions. Et donc, au fond, en 2 minutes d'ordinateur, on a la réponse à quelque chose qui prenait 6 mois. Et donc là, on a plein de commandes à cause de ce petit simulateur métier. Et l'universitaire n'a été capable de le développer que parce qu'on lui a dit ce qu'il fallait faire, le type de matériaux qu'on utilisait. Et ça, dans toutes les PME, si elle doit faire des tests de mise au point de produit, on peut probablement inventer des simulateurs métiers. Il y a 4 technologies pour faire de la fabrication additive. Quand c'est du plastique, vous prenez un jonc de plastique, vous le faites fondre à l'endroit où il faut faire la pièce, puis tout doucement, votre pièce se construit. S'il y a aussi des liquides, vous envoyez des rayons UV, vous solidifiez une partie du liquide. Et donc, c'est ce qu'on appelait jadis la stéréolithographie. Si c'est du métal ou de la céramique, vous prenez de la foudre et vous la soudez. Et puis, il y a une autre façon, c'est de prendre des plaques très fines et vous les découpez. Puis après, vous collez les plaques entre elles. Donc, c'est la stratoconception. C'est un mélange de découpage, puis après, d'assemblage. Alors, l'aérospatial, dans le journal d'aujourd'hui, le magazine Innovation et Technique, il est écrit que Dassault, dans son dernier drone, un énorme drone, a déjà plus de 100 pièces faites en fabrication additive. Le GIFAS a lancé un groupe de travail usine aéronautique du futur où on parle sans arrêt de fabrication additive. L'automobile, tout ce qui est mécatronique, ça peut se faire en fabrication additive, notamment rajouter un peu d'électronique. Voilà. Le médical, c'est vraiment fait pour la fabrication additive. Hein. Un fémur, des dentitions, ça doit être adapté à la personne. D'une personne à l'autre, c'est différent. Donc, il faut basculer. Et le titane est en plus non magnétique. Donc, si vous avez quelque chose en titane, vous pouvez passer dans l'IRM sans risque. Alors que si vous avez un pacemaker, il faut qu'on vous retire vite, sinon ça chauffe. Et puis les artisanats. Les chaînes industrielles ont à peu près tous ce même type. 3 étages. Celui qui fait l'assemblage, il achète 70% de ce qu'il vend. L'équipementier et l'ETI qui fait des pièces, donc évidemment à propos de matériaux. Donc si on doit faire croître les PME et les ETI, suivant le rapport gallois, il faut les faire croître avec de nouveaux matériaux, donc avec de la fabrication additive. La valeur ajoutée, mais là je pense que les économistes dans la salle pourront le faire mieux que moi, la valeur ajoutée d'une PME industrielle aux alentours de 50%. Donc si on arrivait à augmenter notre PIB industriel de 10%, il suffirait que les entreprises augmentent leur chiffre d'affaires de 20%, les PME. Et les grands groupes, il faut qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires de 30%. Donc il faut aller dans des marchés qui ont des croissances à plus de 10%. Et tout ce qu'on fait en fabrication additive, c'est forcément nomade. Donc c'est industriel et nomade. Voilà, dernier point, est-ce qu'on pourrait faire une initiative nationale? Les Allemands, sur leurs 70 Fraunhofer, en ont 10 spécialisés en fabrication additive. Le ministre chinois de l'industrie a dit en décembre, on va être les premiers en fabrication additive. Je vais vous donner plein de déductions fiscales, y compris de subventions pour produire. Donc j'ai reçu la visite de mon responsable de ma filiale chinoise. Je lui ai dit, allez demander des subventions puisqu'il vous dit qu'il vous les donne. Obama, dans son discours sur l'état de l'Union, a dit qu'il allait créer 14 hubs et qu'il serait en tête de la course de la fabrication additive. En France, il y a plein de Fab Labs. Je pense qu'il y en a au moins 50, dont au moins 200 qu'on peut appeler quasi-Fab Labs. Vous en avez certainement déjà vu un peu partout. Le coût d'une plateforme fabrication additive qu'on mettrait dans un site universitaire, c'est entre 1 et 5 millions, mais il en existe déjà un certain nombre. à Saint-Dié-les-Vosges en stratoconception, une des meilleures plateformes mondiales, à Grenoble qui vient d'acheter une machine 500 ou 600 000 euros pour faire des choses comme ça, à Saint-Étienne, etc. On a plein de labos qui travaillent déjà sur la métallurgie des poudres et les traitements de surface. Bon, donc on a beaucoup d'initiatives, mais pas de coordination nationale. Donc la solution est probablement simple, mais vous nous le direz tout à l'heure. C'est ça, mettre en place une coordination, donc un pilotage, faire des plateformes thématiques, mettons qu'on en fasse 30, un peu plus d'une par région, ça fait 150 millions d'euros d'investissement, qu'on favorise les Fab Labs scolaires et de quartier, bon, ben, on en fait 500, ça fait 5 millions d'euros. On crée des clusters thématiques de proximité, c'est-à-dire on réunit des universitaires dans une même zone géographique, des universitaires, des chercheurs académiques, des centres techniques et les écoles, y compris les lycées, et c'est ce que je suis en train de faire à Charleville avec Materalia. Donc ce n'est pas difficile à faire, encore 5 millions. Ce n'est pas des sommes phénoménales et on est dans la renaissance industrielle. Et je pense que c'est la fin. Merci de votre attention.